Bon, alors, Bezrat Hashem, on va commencer un nouveau chapitre, chapitre 7, qui est peut-être une nouvelle section de Shaar Ikhout Ve'Emouna. Donc ceux qui ont perdu un peu le train, le chapitre précédent, peuvent le reprendre maintenant.
Mais avec les grèves, hein, SNCF, c'est pas normal. Hein.
Si on a le enfin, en vérité, ça tombe à pic, hein, parce qu'on est juste après Hanouka. Et voilà, on est juste après Hanouka, donc on sort dans une grande période de lumière. Et on va essayer de comprendre, justement, jusqu'où va la force de la lumière. Ça va être le thème du cours d'aujourd'hui. Alors, on va retrouver dans le cours d'aujourd'hui l'histoire des deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, Dieu a deux noms principaux, qui sont Hachem. Ah, il faut l'ouvrir, ouais.
Ah non, il a peut-être pas dans les mains.
Non, peut-être qu'il y a...
Il a un truc dans les mains, il peut pas se faire.
Oula, ok. Alors, donc, Hachem, d'accord, et Yudke Vavke. Le nom d'Akadosh Baruch qui est limité. C'est de quoi, c'est ça?
C'est de Simon, c'est de...
Ah, Chazak.
C'est gentil. Ils étaient là-bas, donc je les ai ramenés.
Voilà, Kavod. Merci, bon, voilà. Voyez les... Il manquait les bougies, là.
C'est un
anniversaire, non, c'est les restes de Hanouka. Chazak, merci. Ok. Alors, on va continuer maintenant Bezrat Hashem aujourd'hui pour essayer d'expliquer les deux grands niveaux de Ardout Hashem, dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad et Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Rappelez-vous. On a dit que le Kriyat Shem, pour comprendre ce que je veux dire, il faut que je revienne à ce qu'on a expliqué dans le chapitre 1 de Shaar Ikhout Ve'Emouna, parce que ça fait quand même un bout de temps. Que la clé de la réponse se trouve ici. On avait posé une question, on avait dit finalement, c'est quoi la nouveauté du Shema Israël? Au point que tu demandes à n'importe quel juif, tu lui dis c'est quoi le judaïsme, il va te répondre Shema Israël, écoute Israël, éternel notre Dieu, éternel est un. On avait dit a priori, c'est une évidence, c'est quelque chose de simple, que écoute, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. Bon, ok, il y en a un, il n'y en a pas deux, c'est rien du tout. Et après on dit Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Va'ed. Béni soit le nom de l'honneur de la royauté de Dieu, L'Olam Va'ed à jamais. Bon, je veux dire, quel est le scoop ici? Alors on a commencé, mais on n'a pas expliqué du tout encore, à amener le Zohar. Le Zohar qui a expliqué que lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, éternel et notre Dieu, l'éternel est un, on ne veut pas te dire qu'il y a un Dieu et qu'il n'y en a pas deux. Parce que ça, qu'il y a un Dieu et qu'il n'y en a pas deux, c'est quelque chose que tout le monde sait. Enfin, celui qui est croyant, il le sait, et c'est une information qu'il connaît, et c'est fini. C'est pas ça le chidouche. Le chidouche, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, éternel notre Dieu, l'éternel est un, c'est que tout est Dieu. C'est pas qu'il y a un Dieu et qu'il n'y en a pas deux. Quand on dit l'éternel est un, ça veut dire que tout est Dieu. La chaise c'est Dieu, la table c'est Dieu, le mur c'est Dieu, tout est Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, là j'arrive au sujet. Le Zohar nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'il y a deux façons de trouver l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça en vérité, tout le thème de Shaar Ikhout Ve'Emouna, c'est comment trouver l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, comment trouver que tout est Dieu. Le Zohar nous dit, il y a deux façons de voir. Il y a Ikhuda Ila'a et Ikhuda Tata. Littéralement, ça veut dire, il y a l'unicité suprême et l'unicité inférieure, terrestre. Ça veut dire que, en d'autres termes, il y a deux façons de voir l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Deux façons de voir comment tout est Dieu. Et ces deux façons correspondraient aux deux parties, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed. Pour l'instant, ça c'est ce que le Zohar dit. Le Zohar n'explique pas. Le Zohar nous donne l'info.
Hein?
Le Zohar nous donne l'info, il nous dit, Shema Israël, c'est Yehuda Ila'a, c'est l'unicité suprême, et Baruch Shem, c'est l'unicité terrestre. Et il explique pas comment, il explique pas pourquoi. Donc là, il faut qu'on explique. Parce que concrètement, dans ma vie, je veux savoir comment ça fonctionne.
Il y en a deux dans ce cas-là. Un pour le ciel et un pour la terre.
Oui, mais le problème, c'est que c'est le même Dieu.
Matériel,
c'est oui, il dit c'est un seul. Et puis après, il me dit, il y en a un pour la terre et un pour le ciel.
Comment ça fonctionne?
Alors, il y en a deux.
Très bien, c'est la question. Ou basé. Avec ça, on va comprendre. Donc, on est à la page 88. Ou basé Yuvan, Mashekatu, Bezohar, Akadosh. Donc là, on tape directement dans le Zohar. Hein, c'est... Avec ça, on va comprendre ce qui est écrit dans le Zohar. Des Pasuk Shema Israël ou Ikhuda Ila. Le Zohar nous dit que Shema Yisrael, c'est l'unicité suprême. Et la réponse, qui est béni soit le nom de l'honneur de la royauté de Dieu à jamais, ou Ichuda Tata, c'est l'unicité terrestre. Qui va aide, ou Echad Ichulfe Advan. En effet, les deux terminent par trois lettres. Shema Israël, Hashem Ekenu, Hashem, Echad. Trois lettres, Aleph, Chet, Dalet. La deuxième phrase termine par Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam, Vaed. Quelle est la différence entre Echad et Vaed? Alors, en fait, les deux sont composés de trois lettres. Shema Israël, Hashem Ekenu, Hashem, Echad. Aleph, Chet, Dalet. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam, Vaed. Donc les deux se terminent avec un Dalet. Ce qui va changer, c'est les deux premières lettres. Echad commence par un Aleph et un Chet, alors que Vaed commence par Vav et Aïn. Très bien. Maintenant, on explique qu'il y a une notion de permutation. Les lettres qui peuvent se permuter, par exemple. On sait que les lettres qui viennent du même groupe de lettres, parce que vous savez qu'il y a cinq groupes de lettres. Il y a les lettres gutturales, les lettres qui viennent du Nef, il y a cinq groupes de lettres. Et toutes les lettres du même groupe peuvent s'interchanger. Alors, si je prends maintenant, par exemple, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'accord? Donc, le Aleph et le Vav peuvent s'interchanger. Pourquoi? Parce qu'ils sont du même groupe. Il y a un groupe de quatre lettres, Aleph, He, Vav, Yud. Donc, le Aleph de Echad peut s'interchanger avec le Vav de Vaed. Ils sont dans le même groupe. Maintenant, je continue. Les lettres gutturales, il y a quatre lettres, donc les lettres gutturales, c'est Aleph, surtout Chet et Aïn. Chet et Aïn. Or, Echad, c'est avec un Chet. Aïn, c'est avec un Dalet. Chet et Aïn font partie du même groupe. Il y a un principe qui dit que les lettres qui sont du même groupe peuvent s'interchanger. Ce qui veut dire que, même si nous, la façon comment on l'écrit Echad et Vaed, ce sont deux mots différents, deux mots distincts, mais en vérité, Echad et Vaed sont connectés. Puisque le Aleph de Echad peut s'interchanger avec le Vav de Vaed, puisqu'ils sont du même groupe. Et le Chet de Echad peut s'interchanger avec le Aïn de Vaed, qui est une lettre gutturale. C'est le même groupe. Et le Dalet, kif, c'est la même chose. Echad est égal Vaed. Oui, mais je comprends pas, pourquoi tu répètes si Echad est égal Vaed? C'est là que le Zohar t'explique. Le Zohar, il te dit qu'en fait, il y a deux façons de trouver l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la façon comme on le voit d'en haut et la façon comme on le voit d'en bas. Ça, évidemment, il faut qu'on explique. Ok, on y va dans les mots. Qui est né? Allez, on y va. Qui va aide ou echad bechiloufé advan. Car va aide est l'équivalent d'echad par le biais de substitution de lettres. Page 89. Qui est né? Sibat vetam a timtsum va esterazé. La cause et la raison de ce timtsum. Ça veut dire que lorsque ce voilement, comment Dieu s'est caché, comment Dieu s'est contracté, chez Istim et Istirveli Makazoukhot Achayot Shel Kol Olam, Kede, chez Yéa Olam Niren, Davar Nichot Nasmo, il n'a eu à l'école. Mon Razaken, il va expliquer point par point. Dit comme ça. Et d'ici, je te pose la question. Pourquoi Dieu a eu besoin de se contracter? Pourquoi Dieu s'est contracté?
Hier, l'autre jour, je vous avais dit, il se contracte, c'est comme une lumière qui est très très puissante, et si je la reçois, je ne pourrai pas la voir, elle va me brûler, donc il met des voiles, au fur et à mesure, il y a des voiles, il se contracte
très bien.
À travers les voiles.
Donc ça veut dire que pourquoi Dieu se contracte? Pour qu'on puisse le voir. Ok, bravo. In et où il y a doué la colle. Donc ça c'est connu à tous. Qui tachlit briata olam, que l'objectif de la création du monde, ou bishvil idgalut malchuto idbarer, c'est pour le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Bonsoir. Pour le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair. Ça veut dire que pour que Dieu puisse se dévoiler, il faut qu'il y ait un peuple à qui il peut se dévoiler. Et là il y a une phrase, il y a un dicton, qui dit, en melech belo am.
Évidemment.
Il n'y a pas de roi
sans peuple.
Mais le problème, il faut qu'on explique. C'est quoi un peuple? Comment vous définissez un peuple?
Un peuple, c'est un groupe de personnes qui se revendiquent d'un roi.
Maintenant, qui est le peuple par rapport au roi?
Le peuple, c'est nous.
Attendez, non, je ne parle pas dans l'exemple. Qui est le peuple par rapport au roi? Le peuple représente quoi par rapport au roi?
Le
sujet?
Ah oui.
Est-ce que le peuple fait partie du roi?
Non.
C'est quoi le peuple alors?
C'est le sujet.
Oui, mais pour être un sujet du... Qu'est-ce qu'il faut? Quelle qualité faut-il avoir pour devenir un sujet du roi?
Il faut aimer le roi.
Est-ce que par exemple, le fils du roi peut être un sujet du roi.
Oui.
Ouais, c'est la succession.
Est-ce que le fils du roi, on l'appelle le peuple?
Non.
Pourquoi?
Non, c'est la famille royale. C'est la famille royale du roi.
Pourquoi la famille royale fait pas partie du peuple? Ouais. C'est quoi le peuple? Très important à répondre à cette question. Ah ouais. Parce que si tu as compris la réponse à cette question, tu comprends la relation que tu as avec le Kadosh Baroukh Hou. C'est la clé de la réponse du cours d'aujourd'hui, ça. C'est quoi un peuple?
Un peuple, c'est quoi un peuple?
C'est quoi un peuple?
C'est la réunion de personnes qui sont soumises à un roi.
C'est celui qui
donc le peuple, ce sont des sujets.
Un groupe de personnes
sujets.
Qui se soumettent à une volonté.
Quelle est la définition de ces sujets?
La définition.
Même si c'est pas soumis,
ces vois, sujets sont des gens qui par acceptent. Définition, doivent être distincts du roi.
C'est pareil.
Ça veut dire qu'ils doivent être éloignés du roi. C'est pas sa famille. C'est d'autres personnes.
C'est pas ses amis.
Mais qui ont décidé. Donc c'est des gens qui ne doivent rien au roi. C'est-à-dire c'est pas sa famille, c'est pas ses serviteurs. Les serviteurs du roi ne sont pas le peuple. C'est encore autre chose. Ce sont des gens qui ne doivent rien du tout au roi. Et pourtant, ces gens-là vont décider de s'annuler au roi. Maintenant, il y a un dicton qui dit « En meler beloham ». On dit à Benou Bechaye, il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire, tu ne peux pas régner sur ta famille. Parce que ta famille, c'est pas les éléments distincts de toi. Tu peux pas régner sur des serviteurs. Tu peux être maître sur des serviteurs. Mais tu peux pas régner. Parce que par définition, la notion de règne, ça veut dire que je vais régner sur quelqu'un qui accepte ma souveraineté. Et s'il accepte, ça veut dire qu'il aurait pu ne pas l'accepter. Or, mon enfant ne peut pas ne pas l'accepter parce que c'est mon enfant. Donc, il fait partie de ma chair, c'est pas la même chose. Et mon serviteur, de seconde. Et mon serviteur aussi. Il a pas de compte. C'est-à-dire, on lui demande pas son avis. On lui demande pas, est-ce que tu voudrais être serviteur ou pas? Le serviteur n'a jamais dit, vive le maître.
Donc, on n'est pas un esclave.
J'arrive. Le serviteur n'a pas besoin de dire, vive le maître. Même s'il dit pas, vive le maître, tu es mon maître. Okay. Alors que dans le roi, dans la relation qu'il y a entre le roi et le peuple, on a besoin de l'acceptation. De l'acceptation du roi par le peuple qui va dire, vive le roi. Jusqu'à même dans les derniers rois. Le roi est mort, vive le roi. Vive le roi. On l'a vu dans une haftara. Yehi Adoni Ameler David Leolam. À un moment, on a proclamé, on a dit que vive le roi David, le roi David. C'est quand le roi David était menacé, etc. Qu'on a dû donc affirmer sa royauté. Et on a proclamé, vive le roi.
Comme ça, on le lit dans Rosh Hashanah.
Oui, non, mais c'est une haftara. Je crois que c'est l'haftara de... Attendez, c'est pas l'haftara de cette semaine? L'haftara de Vaïgash, non?
Non.
Si, elle termine.
Peut-être.
C'est l'haftara de Vaïgash, je crois.
C'est du relou.
Non, je rigole. J'ai vu ce matin, je crois pas.
L'haftara termine par ça. Bon, en tout cas, c'est une haftara qui termine par Yechi de Vaïeshev, je crois. Vaïeshev ou Vaïgash. Yechi de la mère David Lolam. C'est-à-dire qu'il y a une notion de roi. Et de peuple. Et que le roi, si vous voulez, il présente une candidature et le peuple doit accepter le roi. Mais par définition, pour être un peuple, il faut être quelqu'un qui soit distinct du roi. Ok? El meler beloram. Am, en hébreu, ça vient de romem. Romem, c'est éteint. Vous savez, quand vous avez des braises, quand tu as du feu, plusieurs catégories de feu. Tu as le feu qui est allumé. Quand Hanouka, voilà, il y a du feu. Flamme, elle est allumée. Après, tu as les braises. Une braise, c'est pas du feu qui est allumé. Mais bon, si la braise est bien chaude, tu vois, elle est rouge la braise.
C'est chaud,
donc ça s'appelle une braise qui est allumée. Ouais. T'as le feu, c'est du feu que tu vois devant toi. T'as une braise qui n'est pas du feu, mais qui contient du feu visible. Mmh. Et tu as Gechalim Omemot. Omemot, de la même racine que Ram. Tu as des braises qui sont éteintes. Maintenant, il faut se méfier des braises éteintes.
Ah oui, c'est du sombre.
Tu veux dire parce que ces braises qui ont l'air éteintes.
Sont recouverts de...
Tu envoies un coup de vent dessus et qu'est-ce qui se passe?
Ça redémarre.
C'est pas ça qui redémarre. C'est que t'as une énergie dedans qui est extraordinaire. Qui peut rester pendant plusieurs heures. Qui est très profonde. Qui a l'air éteinte. Donc, Gechalim, Omemot. Omemot, ça veut dire éteint. De la même façon, le Ham, en hébreu. L'étymologie du mot Ram, peuple, c'est des gens qui sont éteints. Pas éteints, qui n'ont pas de passion. Des gens qui sont éteints, ça veut dire des gens qui n'ont pas de relation avec le roi. Ils font pas partie du chandelier du roi. Mais parce que s'ils font déjà partie du chandelier du roi, c'est plus le peuple.
Alors,
on avait parlé de ça, comme a dit Marcel. Par exemple, quelqu'un qui va rentrer chez lui à la maison, qui va s'asseoir sur le canapé, et il va dire, je suis le roi du monde.
Avec sa femme,
je suis le roi du monde. Tu peux créer ton temps que tu veux, tu es le roi du monde.
C'est toi.
Ouais, ta femme. Ça n'engage que toi.
Alors, à cette
vraie... Il y a des gens qui disent, je suis le roi, c'est comme un dessin animé.
À ce âme, et elle vient d'où, le souffle qu'il lui faut, qui c'est qui lui donne
non, ce non, souffle Non, non, on ne parle pas de souffle. C'est l'étymologie qui m'intéresse. L'étymologie du mot âme veut dire éteint.
Existentiel.
Éteint, ça veut dire distant. Oubliez les braises. Les braises, c'est juste un exemple. Les braises éteintes. Gechalim en mémote.
Mais la chose en mémote. Pour qu'ils reprennent, il faut le souffle.
Oui, mais je ne parle pas de braises aujourd'hui. C'est pas le thème. Le thème, c'est d'expliquer que homme, ça veut dire éteint. Âme, ça veut dire éteint. Il n'y a pas de roi. On ne peut pas régner sur un élément qui n'est pas éteint. C'est-à-dire, il faut un élément qui soit distinct de toi. Et là, cette personne qui est distincte de toi accepte la souveraineté. Là, on peut parler de royauté. Alors, de la même façon, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Bonsoir. Akadosh Baruch Hu est Melech. Melech. Maintenant, comment peut-il régner sur nous? S'il règne sur nous, s'il veut régner sur nous, ça veut dire qu'on doit être des éléments distincts. Parce que si nous ne sommes pas des éléments distincts, dans ce cas-là, c'est plus un roi, c'est un père. Ou c'est un maître, mais c'est pas un roi. Parce que pour être roi sur nous, il faut qu'on accepte la souveraineté. Donc on doit avoir le libre arbitre d'accepter ou pas sa souveraineté. Vous comprenez le problème? Vous comprenez pourquoi Akadosh Baruch Hu est obligé de faire le tzimtzum, obligé de se contracter? Parce que s'il ne se contracte pas, il ne peut pas devenir notre roi. Il peut être notre père. Ça, c'est ton père, très bien. C'est ton père.
C'est mieux.
Il peut être notre père, il peut être notre maître, mais pas notre roi. Parce qu'un père n'a pas demandé la vie à son fils avant d'être son père. Il n'a rien demandé, le fils.
Oui.
Donc ça marche pour Hachem. Un maître n'a pas demandé la vie à son serviteur avant de le prendre comme serviteur. Donc ça marche aussi avec Hachem. Mais par contre, la notion de roi, c'est plus compliqué. Parce que le roi doit avoir un peuple qui accepte souveraineté et qui aurait pu ne pas l'accepter.
Attends, dans la tefila, il y a plusieurs cas.
Bien sûr.
On parle.
Im kebanim, im kavadim, avinu malkenu. On a les trois.
Alors.
Ah ben voilà.
Ce qui est marrant, c'est que
les deux premiers éléments, c'est facile. Pas de problème. On est les fils de Shem, pas de problème.
C'est mon père ou c'est mon roi?
C'est les trois. C'est trois aspects. Mais l'aspect le plus compliqué, c'est l'aspect roi. Parce que quand tu dis Hachem, c'est mon père, bon, t'as un grand-père, t'as un père qui est énorme. Quand tu dis Hachem, c'est mon maître, c'est mon patron. Mais quand tu dis Hachem, c'est mon roi, ça veut dire que j'ai accepté sa souveraineté. C'est beaucoup plus compliqué, ça. Parce que on n'a pas accepté on n'a pas accepté que notre père soit notre père, la paternité. On nous a pas demandé notre avis sur la paternité. On m'a rien demandé. On t'a pas demandé est-ce que tu vas être le fils de monsieur Intel ou est-ce que tu vas être le père de monsieur Intel, t'as rien demandé.
Quand est-ce qu'on me demande que moi je veux faire partie de ce peuple qui a ce roi?
Tous les jours, chaque fois que tu fais une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam. Melech haolam. Chaque fois que tu fais une bracha, et on en fait plein, on fait l'amida. Melech. Chaque fois que tu dis Melech haolam, au début tu dis Elokeinu. Tu dis Baruch ata Hashem. Hashem c'est Dieu. Ça t'engage pas, ça. Elokeinu, c'est notre maître. Mais un autre maître, il peut être notre maître, il m'a rien demandé. Mais là, je dis Melech.
On se soumet, là.
Là, quand tu dis Melech, tu t'engages. Tu dis, c'est mon roi. Je suis son sujet. J'ai accepté d'être son sujet. Maintenant, juste deux secondes. Le problème, c'est que, pour qu'il puisse avoir cette notion qu'Hachem est notre roi, et que nous sommes ses sujets, et qu'on accepte sa souveraineté, il faut que j'ai le libre arbitre, ou au moins un pseudo libre arbitre, d'être capable de ne pas vouloir que Dieu soit mon roi, et de dire, oui, je veux qu'Hachem soit mon roi. Il faut être un peu distant avec Hachem. Maintenant, comment tu peux être distant avec Hachem? Tu peux pas être distant avec Hachem, parce qu'Hachem, c'est lui qui te crée. C'est là que va arriver le tzimtzum. La contraction, dans laquelle Akadosh Baruch Hu va se cacher, alors qu'il est toujours là, mais il va se cacher assez pour que tu ne le vois pas, et que tu te rends pas compte que c'est lui qui te vivifie, pour que, au moment où tu vas dire à Hachem, je te choisis comme mon roi, eh ben, tu ne sens pas la présence d'Hachem, et t'aurais pu dire non. Et pourtant, tu vas dire oui. C'est ça toute la raison pour laquelle Dieu se contracte.
C'est pour me laisser le libre arbitre.
Pour me laisser le libre arbitre, et que quand j'accepte la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, c'est le plein gré.
Oui, ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'un père, qui est notre père,
oui.
On le tutoie, alors que Dieu, tu le tutoies pas, tu le vois pas, tu le tutoies là, sur le coup.
Oui, mais pareil.
Alors qu'un roi, en règle générale, tu dis pas un roi, tu t'es pas son copain. Là, pour le coup, il y a une proximité. Et tu le tutoies. Il le tutoie d'ailleurs, lui.
Le roi, je le respecte une fois que j'ai accepté sa souveraineté.
Mais là, ce que je veux dire, c'est la proximité. Non,
on le voit dans l'histoire du monde. Ça veut dire que des fois, par exemple, qui étaient les rois? Des fois, c'était des gens qui étaient avec nous, qui étaient avec toi au café. Et tout d'un coup, le peuple a décidé que lui va devenir le roi. Et là, du coup, tu ne le vois plus, on va l'appeler majesté. Mais c'est quelqu'un que, avant, tu appelais mon copain, tu appelais par son prénom. Et tu as décidé de le nommer roi, et là, on ne l'a plus de la même façon. Ça veut dire que le roi n'a rien à voir. D'ailleurs, on peut destituer un roi. On ne peut pas.
On ne peut pas les destituer.
Le peuple peut destituer le roi.
Non, on peut pas.
Bien sûr.
C'est
la révolution. Si le peuple n'accepte plus la souveraineté du roi.
On lui coupe la tête.
Non, mais je comprends. Mais si le peuple. Je ne parle pas d'un membre du peuple. D'accord ? Si le peuple, dans son intégralité ou dans sa majorité, n'accepte plus la souveraineté du roi, on peut destituer le roi. C'est-à-dire le roi n'est plus notre roi. Il peut être un roi sur qui il veut, sur les sujets qu'il veut. Mais nous, on ne se sent plus les sujets de ce roi. Donc, par définition, s'il y a un roi, c'est qu'il y a des gens qui ont accepté sa souveraineté. On ne peut pas être roi sur rien. D'ailleurs, c'est la grande question. Comment on dit Adon Olam Hashem Malah Beterem Kol Yetzirah? Comment on dit que Dieu a régné avant que toute créature soit créée? Il a régné sur qui? On ne peut pas être roi s'il n'y a pas de sujet. En Meler Beloham. Donc, qui sont les sujets? Est-ce que les anges peuvent être les sujets d'Hachem?
Oui.
Non.
Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas de libre-arbitre.
Pourtant, ils leur demandent des trucs.
Non, mais ils n'ont pas de libre-arbitre.
Les sujets, faites assujettis.
Ils leur demandent des services.
Bah oui.
Ils sont obligés de faire.
Si vous voulez, Hachem, c'est le maître des anges.
Ah, tu veux qu'ils peuvent...
C'est peut-être le père des anges. Mais c'est pas le roi des anges.
Il n'y a pas de libre-arbitre.
Parce qu'ils n'ont pas de libre-arbitre comme nous, donc ils n'ont pas cette notion. Ils ont un petit libre-arbitre, mais bon. Ils peuvent pas, exactement, voilà. Ils peuvent pas ne pas accepter. Donc, c'est pas une relation entre un roi et des sujets.
C'est un père et une.
Les seuls avec lesquels Akadosh Baruch Hu a une relation de. Entre autres. C'est les êtres humains. Mais l'air.
Les animaux, non, par contre.
Alors, il a régné. Au passé, sur qui il a régné?
Sur la terre.
L'araignée, j'ai pas compris.
Non, il a régné.
Spider-Man.
C'est sur qui il a régné?
Très bien, bonne question, on va voir. Mais déjà, moi ce que je veux comprendre, c'est comment. Ça veut dire que pour créer cette notion de royauté, Akadosh Baruch Hu est obligé de se contracter au point qu'on ne le voit plus, alors qu'il est là, mais on ne le voit plus. Et au point que lorsqu'on pose la question, on me dit, mais qu'est-ce que tu en penses, Mandy, de Dieu? Je dois dire, écoute, je vais réfléchir. C'est quoi, j'accepte sa souveraineté? C'est ce moment de doute que tu as, et à un moment tu dis, j'accepte. À ce moment-là, Hachem est devenu ton roi. Tant que tu n'as pas eu ce doute dans ta tête, tant que tu n'as pas eu ce libre arbitre, Hachem n'est pas ton roi, il est ton père, il est ton maître, mais il n'est pas ton roi. Il devient ton roi au moment où tu as une autonomie, ou une pseudo-autonomie, mais toi tu la considères comme une autonomie complète, et que tu dis, j'aurais pu dire non, et je dis oui. Là, c'est le roi. Adon, Melech.
De toute façon, il ne me donne pas le choix, puisque... Dans le texte, il me dit, je dois dire ce qui est écrit, Adon Meler, Hachem Echad.
Non, justement, si c'était un choix qui était imposé, et un choix que je n'aurais pas, c'est-à-dire que si je n'avais pas le libre-arbitre, on n'aurait pas pu parler de Meler. On aurait pu parler de Adon, de Abba, mais pas de Meler. C'est pas le roi. Parce que par définition, un roi doit être nommé par le peuple. Pour le peuple, par le peuple. Ça, c'est l'approche du judaïsme. Je sais que dans l'approche qu'on a, par exemple, pourquoi on a un tel rejet des rois? Parce que le dernier roi qu'on a connu dans le monde, même chez nous, les juifs, le roi de France, par exemple, etc., c'était des rois qui ont utilisé leur fonction pour tyranniser les gens. C'est comme ça, malheureusement. Et donc, du coup, le peuple ne les acceptait plus. Mais on n'a jamais donné le choix au peuple. C'est-à-dire que si le peuple ne voulait pas, on coupait la tête. Donc, le peuple n'avait pas accepté le roi. Donc, c'est pas des vrais rois, ça. Ça, d'après la Torah, c'est un maître. C'est-à-dire que finalement, tous les sujets étaient des esclaves. Des esclaves qui n'avaient peut-être pas des chaînes, mais c'est des esclaves. Tous les rois de France qu'on connaît ici, tous les habitants ici, c'était des esclaves. Ils n'étaient pas peut-être enchaînés, ils avaient peut-être une pseudo-liberté, mais ils étaient esclaves. C'est du bétail. C'est les esclaves, ça. C'est pas ça du tout la notion d'un roi dans la Torah. La notion d'un roi dans la Torah, c'est qu'il y a une relation de respect qui s'instaure entre le roi et le peuple, et que le peuple est content d'avoir son roi. Il vénère son roi. Quand il regarde le roi, il le regarde comme ça. Mishirmo va mal, c'est écrit, il le regarde. Le roi est toujours une haute stature. En français aussi, quelqu'un de haute stature. Haute stature. Quelqu'un d'important. On le respecte. Ça, c'est un roi. C'est pour ça que la Gemara nous dit que, pour nous, de nos jours, maintenant qu'on n'a plus les rois, c'est qui les rois? C'est les Chachamim. Parce que les Chachamim, on le regarde comme ça. On le regarde vers le haut. Ça, c'est un roi. Et pareil, un rave. Un rave, c'est quelqu'un que tu acceptes son autorité. Il y a plein de rabbanim, tu peux accepter ou ne pas accepter. Et j'ai décidé, lui, c'est mon rave. C'est mon rabbi. Donc j'ai accepté son autorité. J'aurais pu ne pas l'accepter, personne ne l'a imposé. C'est pour ça que l'Agmara nous dit « Man malche rabanan ». Qui sont les rois? Ce sont les rachamim. C'est la même chose. Parce qu'il y a une notion de libre arbitre. On ne me l'a pas imposé. Oui. D'accord ? On ne l'a pas imposé. J'ai décidé de suivre ce rave. Donc, c'est mon rave. Donc, j'ai accepté ses souverainetés. Maintenant, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Il faut trouver chez Kadosh Baruch Hu une notion dans la relation que j'aurais pu ne pas accepter et j'ai accepté. Ça, pour arriver à ça, Dieu est obligé de se contracter. Alors, on y va. Ki ilu, donc Spirush Am Ilashen Omemot, Shem Dvarim Nifradim Vezarim Mirorkim Imalat Amelech. Qu'est-ce que c'est le peuple? Am. Am, ça veut dire distant, ça veut dire éteint. Ce sont les sujets de la nation qui sont des éléments séparés et étrangers, éloignés de la grandeur du roi. En bas de la page 89. Ki ilu, Afilu, Ayulo, Banim, Rabim, Meod. Imaginez un roi qui avait de très nombreux enfants. Un roi qui est marié avec 50 femmes et qui a 400 enfants. Ça peut être, pourquoi pas, ça peut être une principauté, voilà, la principauté du roi un tel. Il a 400 enfants, il a 1000 enfants, il a 2000 enfants. Enfants et petits-enfants. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est un grand harem, là.
Ah, non, mais pourquoi pas? Dans l'absolu. Est-ce que ça pourrait être un royaume? Ouais, c'est un royaume. Il est roi, il a des femmes, il a des enfants, des petits-enfants, c'est sa famille. Non. Dylan Morozakane dit non. C'est exactement, c'est pas moi qui dis, c'est lui. Qui a Ilou, Afilou et le Bani Rabbi Meon, car même s'il avait de nombreux enfants, beaucoup, le Shayar Shem Elucha Alehem, on ne peut pas appeler ça, on peut pas parler de royauté sur eux, parce que t'es pas le roi de ses enfants, t'es le père des enfants, pas le roi. Très important à comprendre ça. Ouais, les gens ils ont des problèmes de fois dans les relations qu'ils ont avec leurs enfants, parce qu'ils pensent qu'ils sont le maître de leurs enfants. Tu n'es pas le maître de ton enfant, t'es pas son maître, t'es son père. Un maître, ça veut dire que c'est un esclave. Ton enfant n'est pas ton esclave, d'accord? Bien sûr que tu donnes des instructions, il doit les respecter parce qu'il a une mitzvah de les respecter, mais c'est pas ton esclave. Et c'est pas ton esclave, c'est pas ton esclave, et c'est pas ton sujet non plus. Tu n'es pas son roi. Tu es son père, d'accord? Il est ton fils. Et c'est une relation particulière, c'est trois relations complètement différentes. Le père et le fils, le maître et l'esclave, et le sujet et le roi, c'est trois relations complètement différentes. Et comme on veut se lier à Kadosh Baruch Hu de la meilleure façon, on va utiliser les trois modes. Mais trois modes distincts. Donc, imaginez un roi qui avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. 2000, 10 000 enfants. Est-ce que ses enfants peuvent devenir ses sujets? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas distincts. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Imaginez un roi qui a fait un royaume dans lequel il n'y aura que des ministres. Un roi qui va avoir un royaume avec 2000 ministres. Que des ministres. Aucun sujet. Est-ce que c'est possible? Impossible non plus. Pourquoi? Parce que le ministre travaille pour toi. Donc, c'est pas ton sujet. C'est pas quelqu'un qui a accepté la souveraineté. C'est quelqu'un qui travaille pour toi. Donc c'est peut-être pas ton serviteur. Mais si, on dit c'est le serviteur de la nation. Non mais, vous comprenez? Ils appellent, en français, ils disent le serviteur de l'État. Hein, ceux qui disent, on dit au service d'eux, non c'est serviteur. C'est un service. Ceux qui disent, ils vont faire les grandes écoles, enfin l'ENA, etc. On dit, qu'est-ce qu'on leur apprend là-bas? On leur apprend à être un serviteur de l'État. C'est les mots qu'ils disent, serviteur de l'État. Serviteur, c'est un serviteur. Mais t'es pas un sujet. Tu sers l'État, tu travailles pour. T'es pas un sujet, ce qu'il dit ici. Vechen afilu al sarim levadam. Si un roi, en théorie, n'avait que des ministres, il peut pas régner sur des ministres. Le roi n'est pas roi sur les ministres. Les ministres vont aider le roi à régner sur le peuple. Il faut un peuple. Sans ministre, on peut avoir une relation entre un roi et un peuple. Mais sans peuple, il y a rien. Pour un royaume, il faut deux ingrédients de base. Un roi et des sujets. Peut-être qu'il y a des ministres qui vont aider le roi, ou oui, ou non. On a eu des royaumes sans ministres. Possible. Il y a un roi qui a tout géré. Bon, il a tout géré, pas de problème. Les ministres vont aider le roi à faire sa fonction. Mais les ministres ne peuvent pas remplacer les sujets. Personne ne pourra remplacer. Donc si vous voulez, de la même façon, nous aussi on dit, mais Akadosh Baruch Hu, il a des anges, etc. et tout. Mais ça c'est des ministres, ça. Mais il faut des sujets. Et les sujets, c'est nous, qui devons accepter la souveraineté d'Hachem. Ça veut dire que Kaviachol, si on n'accepte pas la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, tout l'écosystème qu'Hachem il a fait avec les anges, etc. et tout, c'est comme un roi qui a un royaume avec 2000 enfants et 2000 ministres, mais qui n'a pas de sujet. Ça s'appelle pas un royaume, c'est pas un royaume. C'est pas un royaume. Il faut des sujets. Le sujet, c'est nous, qui devons accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut des gens qui sont étrangers à Hachem. Sans l'être, parce qu'on peut pas être étranger à Hachem, mais des gens qui se sentent étrangers. Qui n'ont, ça veut dire qu'ils auraient pu dire non. Ils doivent se sentir étrangers.
Oui, mais quel est son objectif? Alors pourquoi il a besoin d'avoir un peuple qui soit soumis à ses commandements, etc. Qu'est-ce que ça lui apporte?
C'est une autre question, ça. Moi, ma question, c'est ma question, si vous voulez, c'est comment Akadosh Baruch Hu va avoir la notion de royauté. Il faut qu'il y ait un élément qui se distingue.
C'est sûr. Voilà, okay. D'accord. Mais pourquoi a-t-il besoin de ça? Okay. À la limite, vu sa grandeur, il n'a pas besoin.
Vous pouvez lui poser la question.
Téléphone.
Monsieur Benita, les Avdil. Pourquoi le roi du Maroc a besoin de régner?
Ah, il a besoin d'argent, s'il veut.
Il a besoin pas parce que
bon, non, il fasse pas l'argent.
Il a besoin de régner parce qu'il est, il est, il est le descendant du prophète.
De quoi il a besoin?
Il est.
Qu'est-ce qu'il raconte? Je lui demande pourquoi.
Pourquoi il a besoin?
C'est pas le seul, pas le descendant.
Parce que c'est, hein, c'est le descendant, ouais, du roi, c'est le descendant de son père.
Pourquoi?
Ils ont besoin de. Et il peut pas refuser.
Ah, il peut pas. Ah, non. Donc la raison pourquoi, c'est parce qu'il peut pas.
Il peut pas refuser.
Non, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi il est roi?
Il a de l'argent à vendre, c'est un poste extraordinaire. C'est vrai.
Pourquoi il est roi?
Parce que c'est.
Qu'est-ce que ça lui apporte d'être roi?
Son grand-père était roi.
L'argent.
Le père en vie.
Le pouvoir. Quelle différence, comment il s'appelle le roi du Maroc?
Mohamed VI.
Ok. Quelle différence entre Mohamed VI et Macron?
C'est un roi et un président.
C'est quoi la différence?
C'est pas le cas de.
C'est que l'autre.
Attendez, rappelez-vous. C'est pas si simple une question. C'est quoi la différence?
Un, il est élu par le peuple, l'autre, il est roi de père en fils.
Oui, mais qu'est-ce que le peuple pense du roi?
Ils pensent pas grand chose et ils acceptent.
C'est un problème, ça.
Ils pensent pas grand chose.
Ils
n'ont pas le droit de penser.
C'est pas l'approche de la royauté d'après la Torah.
Ah, d'accord.
C'est pas ça l'approche de la royauté. Un roi qui est imposé, c'est pas ça l'approche de la royauté.
Il a posé que oui, c'est descendant.
L'approche de la Torah sur la royauté, c'est que le peuple s'annule devant le roi.
Mais le roi David, qui l'a.
Je vais vous dire plus que ça. Vous savez que dans la parasha Shoftim, justement.
Shoftim.
La parasha Shoftim, là-bas, il y a un pasouk qui dit comme ça. Un pasouk très particulier. Il dit, lorsque tu vas arriver en Israël, et que tu diras, je veux avoir un roi comme tous les peuples qui est autour de moi. Alors Dieu il dit, tu placeras sur toi un roi. C'est mitzvah la Torah. Que lorsque tu arriveras en Israël et que tu voudras avoir un roi, tu placeras un roi. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de mitzvah de nommer un roi. Tu dis, lorsque tu arriveras en Israël et que tu diras, je veux un roi comme les autres nations, là tu placeras un roi. Et si on ne demande pas de roi, il n'y a pas besoin de nommer un roi. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on arrive en Israël et que les béné Israël ont demandé un roi, Hachem n'était pas content. Hachem dit, pourquoi vous demandez un roi? C'est qui le roi?
C'est moi.
C'est Hachem. Pourquoi tu demandes un roi? Hachem, c'est le roi. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils ont demandé et que la Torah a prévu cette éventualité, alors on a nommé le roi. Qui était le premier roi? Shaoul. Un grand roi. C'est un grand roi. Shaoul, pas n'importe qui.
Pourquoi il était pas content?
Parce que dans l'absolu, c'est une très bonne question, parce que dans l'absolu, c'est quoi le roi? Le roi, c'est la souveraineté, c'est une personne devant laquelle tu te soumets. Et normalement, la seule chose devant laquelle on devrait se soumettre, c'est Hachem. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que c'est très difficile à se soumettre devant Hachem. Parce que tu ne le vois pas. Donc, l'approche du roi, d'après la Torah, c'est une personne qui est très noble, très importante, et qui t'inspire le respect d'Akadosh Baruch Hu, et que, en le regardant, tu t'imagines la grandeur d'Hachem. Et en te soumettant à lui, en vérité, par ricochet, tu te soumets à Kadosh Baruch Hu. C'est un peu un ambassadeur d'Hachem dans le monde. Ça, c'est l'approche du roi dans la Torah. C'est une personne qui représente Hachem. Quand tu le vois, tu dis... C'est un peu comme un rabbi, en vérité. C'est ça, d'après nous. Non, pas du... Quoi? Shaoul, c'est un géant. C'est un géant, Shaoul.
Il a fauté. Il a tué David.
D'accord. C'est parce qu'il estimait que David menaçait sa royauté. Celui qui menace la royauté, il est passible de mort. Et le roi David, il n'a pas tué du monde. Bien sûr. Après, on rentre dans un autre registre.
Ah oui, d'accord.
Quand un roi qui a été accepté par le peuple, le roi a presque tous les droits. Presque.
Parce qu'il y a, Rav Demis, c'est qu'il y a un problème avec le roi Shaoul, c'est qu'à un moment, il n'écoutait plus son peuple. Le peuple a voulu prendre dessus. Et c'est pour ça qu'après, ça s'est séparé en.
En
quoi? En
sucette. Oui. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, on doit toujours obéir et respecter son roi. Quoi qu'ils te disent. Et là, le problème, c'est que le roi a donné des ordres et le peuple n'a pas que tous les ordres.
Alors, le problème était chez le peuple ou chez le roi?
Chez le peuple. Ah, je vois. Non, c'est le roi qui n'a pas été assez ferme.
Heureusement que tu n'as pas vécu avec le peuple de Rochard.
Ah, tu passes à la guillotine.
C'est devant le problème. Chez le roi ou chez le peuple?
À la brochette.
T'es coupable.
Ah, monsieur Cohen, le peuple, qui est fautif?
Non, parce que vous êtes marocain, donc les marocains, vous connaissez les rois.
Non, mais je pense...
Si elle avait un espagnol, on aurait demandé aussi, ou un belge.
On peut dire c'est le roi, Mindy, c'est le roi. Hein? Il aurait dû être plus ferme.
Je sais pas, c'est une bonne question. En tout cas, on voit que l'éventualité du besoin d'avoir un roi a été prévue dans la Torah. Parce que on peut comprendre que parfois, une personne a du mal à s'imaginer la souveraineté d'Hachem. On dit, ok, t'as du mal à t'imaginer la souveraineté d'Hachem. Alors, on va créer un intermédiaire qui va te rappeler la souveraineté. Cet intermédiaire peut être un roi, peut-être un rabbi, peut-être un rave tout court. Tu vas te nommer un rave. Tu vas accepter l'autorité d'un rave. Quand tu acceptes l'autorité d'un rave, ce rave est comme ton roi. Tu sais pourquoi t'as besoin? En vérité, t'as pas besoin, c'est Hachem ton roi. C'est vrai. Dans l'absolu, t'as pas besoin. Mais, dans le monde dans lequel on vit, des fois, on a besoin de quelque chose de concret, quelqu'un que tu peux voir, que tu peux toucher, que tu peux sentir, que tu peux...
Matériel, quoi.
Quelque chose de matériel. Et Hachem a accepté ça. Il n'était pas content. Parce qu'il aurait aimé que on n'ait pas besoin de ça. Qu'on sente directement Hachem. Mais dans les faits, il a accepté. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici clairement que la notion de roi, c'est une notion de souveraineté qu'on doit accepter. Je dois accepter la souveraineté de quelqu'un. On parle même, la Gemara nous parle, c'est même plus qu'accepter. C'est prendre une charge sur soi. C'est-à-dire, tu décides de te mettre sous l'emprise de quelqu'un. Sous l'emprise de quelqu'un. C'est même ça. Or, pour avoir ce pouvoir de décision, il faut te sentir distinct. Et ça, la seule possibilité de se sentir distinct, c'est quand tu ne sens pas Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit ici. Il faut être Nifradim Vezarim. Ok. Maintenant, Veshem Amore Rak Berov Am Davka Adrat Melech, au milieu de la page 90. Donc c'est précisément dans une nation nombreuse et la gloire du roi. Il faut une nation, et une nation se compose de sujets, et les sujets vont accepter la souveraineté du roi. Ok? Et Berov Am Adrat Melech. Et en fait, plus la nation est distincte, plus la nation est séparée du roi, et plus la souveraineté du roi sera importante. C'est-à-dire, si les gens sur lesquels le roi va régner sont des gens qui n'avaient pas vraiment le libre arbitre, il a régné sur des gens qui ne savaient pas ce que c'est la royauté, qui ne savaient pas ce que c'est le libre arbitre, il a pris des esclaves, ça ne s'appelle pas un roi, ça.
Il ne s'est pas trop trompé parce que en nous, on a déjà une étincelle qui lui appartient.
Bien sûr.
Donc mais, il arrive
oui,
avec,
mais le,
tout,
oui,
avec la force des choses.
Mais
c'est lui qui règne.
Il faut arriver à un état de cause dans une situation dans laquelle on ne sent pas Akadosh Baruch Hu. On ne le sent pas, cette étincelle.
Si on l'accepte, on ne l'accepte pas. De toute façon, il y en aura d'autres qui vont l'accepter un jour ou l'autre. C'est le but final.
Oui, mais un roi, même s'il a un sujet qui n'a pas accès à son autorité, ça ne marche pas. Il y a un machin qui est venu en Chassidout. Vous avez des fois un roi qui règne sur des dizaines de pays. Maintenant, dans un de ces pays, dans une des rues, dans un immeuble, dans un étage, dans une maison, il y a un monsieur qui n'a pas accepté la souveraineté du roi.
Ah oui.
Eh bien, le roi ne supporte pas.
Tu le connais,
c'est un chercher. T'as l'adresse?
Non, mais je dis que ça. Oui, non. Le roi, il fait une fixation sur lui. Quand tu es en démocratie, tu te dis, mais attends, il n'y a personne qui peut faire 100% des voix. Sinon, c'est pas la démocratie.
Voilà, alors.
C'est pas possible.
Et suffisant, d'accord.
On est en Russie,
donc,
sinon.
C'est légitime qu'il y ait un
récalcitrant. Il le connaît.
C'est le village.
Si tu as 100% des voix, c'est qu'il y a un problème. T'as manipulé tout le monde.
Ben, oui.
On peut pas avoir 100% des voix.
Ouais, tu vois.
Donc, on est d'accord. Attendez. Donc, on peut pas avoir 100% des voix. C'est pas possible. Mais ça, c'est quand tu es dans une notion de président. Quand tu es une notion de roi, le roi a besoin que tout le peuple accepte sa souveraineté dans tous les détails. C'est-à-dire, si par exemple, t'as un sujet qui va dire, j'accepte la souveraineté du roi, mais que de telle heure à telle heure. Entre minuit et 2 heures du matin, j'accepte pas la souveraineté du roi. Ça passe pas. Parce que la souveraineté du roi, doit occuper chaque partie de ton être. Il n'y a pas une partie de ton être qui doit être occupée par la souveraineté du roi. La vérité, on ne sait pas ce que c'est un roi. Quand il y a eu l'abolition du tsarisme en URSS, il y a un chassid qui s'est mis à pleurer.
Pourtant, c'est bon.
D'accord. Alors, quand les autres chassidim lui ont posé la question, hein, ils lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez? C'est le mal qu'ils ont fait les tsars au peuple juif.
Ah oui, ils ont
massacré. Catastrophe. Il a dit parce que avant,
ça bouge pas.
Pas qu'avant, jusqu'à maintenant, quand on voulait expliquer à nos enfants qu'est-ce que c'est HM, on a dit voilà, tu vois le tsar. Il y a d'autres exemples, tu vois, le roi.
Exemple,
mais imagine-toi que. Oui. Non, mais je comprends. Oui. Mais il sait ce que c'est un roi. Tu dis, tu vois, Hachem, c'est le roi des rois des rois. Donc l'enfant, il a une image.
Ah oui, d'accord.
Il sait la crainte.
La référence, oui.
La crainte qu'il a devant le roi, il s'imagine que il est encore plus grand que ça. Mais aujourd'hui, quand tu veux expliquer à un enfant, c'est quoi la crainte d'Hachem? Comment tu l'expliques? C'est quoi un roi? Il y a pas.
Il y a pas.
Quel respect il a. Pour qui un enfant il a du respect aujourd'hui?
Je pense même pas que.
Mais pour qui il a du respect?
Le président n'a pas respecté.
Tu veux parler de Macron?
Il n'a pas respecté.
Non mais sérieusement.
Oui, c'est
vrai. Pourtant, même si c'est un président qui a eu 80% des voix. Mais il y a toujours des gens qui n'acceptent pas et c'est pas un roi. Donc c'est difficile.
80%
hein, 50% c'est pas, 50,0. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas le choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une notion que aujourd'hui on ne sait pas ce que c'est un roi. Mais Bébé est un vrai roi. Il a une souveraineté absolue. Et même s'il y a un sujet qu'il n'accepte pas, c'est un problème. Ça marche pas. Le roi, il fait une fixation. Il dit comment lui il m'a pas accepté. Et comment lui de telle heure à telle heure il m'a pas accepté. Tu peux pas. Le roi, c'est ton roi. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas une seconde. Alors c'est la même chose. Quand tu dis par exemple que ton père c'est ton père et tu es le fils de ton père, bah, t'es pas obligé d'y penser tout le temps. Bon, c'est d'accord, c'est mon père, j'ai compris, c'est mon père. Je suis pas tranquille. Mais en quoi maintenant ça m'engage que mon père est mon père? Maintenant ça m'engage en rien. Ça me change rien. Je sais que c'est mon père. Bon, quand je le vois, je respectais, je faisais des choses pour lui. Mais maintenant ça m'engage en rien. Pareil, quand tu dis que t'es un maître par rapport à son esclave, ça l'engage à quel moment? Ben, ça l'engage quand il est au service de son maître. Lorsque l'esclave est en train de dormir. On voit sur lui que c'est un esclave, sur les traits de son visage. Mais lorsqu'il y a bien un moment où il n'est pas au service de son maître. Il dort maintenant. Ça, c'est un esclave. Ça, c'est un fils. Mais c'est pas un sujet. Un sujet, il est sujet de son roi non-stop. Tout le temps, non-stop. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il dorme, qu'il soit réveillé, tout le temps. Il est tout le temps le chem. Il a le chem. Il a le nom de son roi sur lui. Le nom de son roi. On raconte que, vous savez, nous, on sait pas ce que c'est, mais... On dit que quand il y avait comme ça des grands pays, il y avait des rois. Maintenant, les gens voyageaient pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les photos comme aujourd'hui. Donc, des fois, on allait dans des patelins et on leur demandait aux gens, est-ce que vous connaissez le roi? Les gens ne connaissaient pas le roi. Ils n'ont jamais vu le roi. Ils n'ont jamais été dans la grande ville. Ils n'ont jamais été dans la capitale. Alors, il y avait des gens qui connaissaient juste le nom du roi. Et à peine on disait le nom du roi, tout le monde tremblait. Mais il y avait des gens que même le nom du roi, ils ne connaissaient pas. Juste on disait le mot roi, tout le monde tremblait. Pour montrer à quel point les gens étaient soumis complètement. C'était une soumission absolue. C'est-à-dire que même tu prends une personne, tu prends un quelqu'un qui est dans un patelin à 500 km de la capitale, qui n'a jamais vu le roi, qui connaît même pas le nom du roi. Tu sais, il y a un roi qui est mort, il y a un nouveau roi, etc. Il te dit, ok, je sais, mais il connaît pas le nom du roi. Mais dès que tu lui dis le mot roi, la royauté, il tremble. Alors, est-ce que nous, on est comme ça avec Akadosh Baruch Hu?
Non, pas du tout.
C'est ça le problème.
Pas pour toi.
Justement, c'était ça.
C'est facile d'être là, faire des moments de Hanouka, de Sukkot, de Kippour, de Shabbat, et de dire maintenant, je suis venu chez mon père. Ok, t'es venu chez ta mère prendre le couscous, t'es venu chez ton père faire la prière. Ok, très bien. Mais après, t'es rentré chez toi. D'un roi, on rentre pas chez soi. Même chez toi, le roi est ton roi. C'est même quand tu fermes la porte, même quand tu rentres dans ta chambre, dans la chambre de la chambre est fermée, même quand tu as fermé la maison à double tour, même chez toi à la maison, ton roi est ton roi. Ça, t'as que chez le roi, ça. T'es pas avec le père, t'es pas avec le maître. Même l'esclave, lorsqu'il rentre dans sa chambre et qu'il ferme la porte, ou qu'il ferme pas la porte, à clé ou pas à clé, il est toujours esclave, mais à ce moment-là, il sert pas son maître. Il sert pas son maître. On sait qu'il est esclave, mais c'est plus que le fils, mais voilà, ça s'arrête. Le roi, c'est plus que ça. Mais le problème, c'est que pour arriver à ce niveau extrême de soumission à Kadosh Baruch Hu, paradoxalement, il faut d'abord créer une sorte de liberté qui fait que le sujet aurait pu dire non, je ne veux pas, et qui va dire oui, je veux. Ah. Et là, lorsqu'il dira oui, je veux, ça sera un oui, je veux à 100%, qui dépassera de très loin le maître, enfin, l'esclave et le fils. Mais pour arriver à ça, il faut d'abord lui donner un pseudo libre arbitre. Sinon, ça marche pas. Ça, c'est le secret du Tzimtzoum.
La liberté contrairement au roi.
Il faut lui donner une liberté, et là, il va accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Et tant que t'as pas accepté la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, ben non, c'est particulier, c'est bizarre, parce que de toute façon, Dieu, c'est ton roi. Enfin, même si tu l'as pas accepté, c'est ton roi, de toutes les façons. Mais comme toi, tu ne le vois pas, il faut que tu acceptes. C'est un peu, si vous voulez, comme, ça, voilà, c'est comme, je vous reprends l'exemple tout à l'heure. Imaginez, vous avez un roi qui règne sur des millions de personnes. Parmi ces millions de personnes, il y a un sujet qui est là, et que lui n'accepte pas la souveraineté du roi. Maintenant, t'as envie de dire, qu'est-ce qu'il en a à faire le roi? De toutes les façons, ce sujet est noyé dans la masse. De toutes les façons, le roi le contrôle dans les faits. Dans les faits, le roi est son roi. Parce que c'est le roi qui fait tourner le pays, c'est le roi qui fait tout tourner. Mais ça passe pas. Le roi, il dit, il y a un sujet qui n'a pas accepté la souveraineté. Il en fait une fixation. Il n'arrache que lui couper la tête.
Il est où?
C'est vrai. N'est-ce pas, les Marocains?
Ah oui, oui, bah.
C'est vrai. C'est vrai.
Même.
Ça c'est pas la démocratie, ça. Ça, c'est vrai.
Monsieur.
La démocratie, par définition, ne peut pas faire 100% des voix. C'est pas possible. C'est ça. Sinon, il y a un problème.
Jusqu'à présent,
tous les rois sont mis à la volonté du roi.
Il s'appelle roi pour imiter le roi céleste. Et finalement, il s'allie le nom de Dieu, finalement.
La royauté terrestre est à l'image de la royauté céleste.
Oui, mais il n'empêche que la plupart des rois qui ont régné, il y a très peu qui ont régné proprement. En tout cas, à part David, qui fait toujours les choses correctement, etc.
Encore que
tous les autres rois, ils ont été.
Je vous expliquer. Le problème qu'on a en démocratie, c'est qu'on n'aime pas le pouvoir. On supporte pas le pouvoir.
Le roi d'Arabie Saoudite est descendu du
prophète. Non, on supporte pas le pouvoir, c'est la réalité.
C'est un descendant du prophète.
Les gens n'aiment pas le pouvoir.
C'est un descendant du prophète.
Ils aiment le pouvoir, ils ont peur.
Hein ?
Le pouvoir, oui. Vient visible comme était le roi.
Donc, dans les faits, on marque.
Il représente.
Dans les faits, on n'aime pas le pouvoir. Mais il y a besoin de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du. On attend tous Mashiach. Et Mashiach, c'est le roi Mashiach. Et les gens sont gênés par ça. Tu dis, bon, l'ère messianique, pourquoi pas l'ère E-R-E, d'accord ? L'ère messianique, oui. Mais le roi Mashiach, ça dérange un peu les gens.
Il va régner comme un roi.
Mais oui, j'ai dit, crois roi.
Parce qu'à ce moment-là, quand
on a l'impression que cette ère est révolue, on n'a pas besoin de roi.
Il y a encore des rois.
Bien que ce soit un rabbin qui fasse ce que tu veux, mais pas roi. J'ai pas envie de roi. Mais encore une fois, parce qu'on n'a pas la bonne approche du roi. Si tu imagines un roi comme un dictateur, effectivement, on veut pas de dictateur.
Voilà.
Mais si tu imagines un roi comme une personne qui te représente, et qui te représente la royauté divine, et que quand tu le vois, il te tire vers le haut, ça c'est autre chose. Bah, c'est pas la même chose, c'est pas la même dimension, ça.
Oui, non, mais d'ailleurs, j'aurais tout dit là.
Comment tu as vu ce concept de roi?
Je vois que l'idée que.
De la Torah?
Non, c'est.
La parole est à toi.
Parce que l'idée que. L'idée que tout le monde a du roi dans le monde entier, hein, c'est l'idée du dictateur.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Écoute,
Louis XVI, on dit que Mashiach, j'ouvre une petite parenthèse. On dit que Mashiach sera roi de seconde et Rosh Hashiva. Il y a un problème, ce que je viens de dire. Il sera roi et maître. Mais il y a un vrai problème, ce que je suis en train de dire. Parce que maître en Torah, je veux dire, avec maître avec un chapeau. Pourquoi? Écoute bien, pourquoi? Parce que un roi, il donne des ordres que tu dois écouter. Un maître, il donne un enseignement que tu peux contester. Après, s'il vous plaît. Un maître, quelle relation on aura avec Mashiach? Est-ce que c'est une relation avec un roi? Ou est-ce que c'est une relation avec un maître que tu peux discuter, tu peux poser des questions?
Il y aura les deux.
Oui. Tu peux exprimer un désaccord, tu peux exprimer une incompréhension. Oui. Avec un roi, tu te tais. Alors, quelle relation on aura et pourquoi? Alors, le rabbi explique comme ça, écoutez bien. Et d'ailleurs, ça n'aura pas avec la paracha, ça. Parce que dans la Haftara, cette semaine, on parle de ça. Haftara, on parle de David et Yosef, la branche de Yosef et la branche de David. On parle de ça dans la Haftara. Et il dit comme ça. Il dit que, Vaïgash, il dit que, en fait, lorsque Mashiach va commencer, au début, il y aura un aspect autoritaire. Donc, on est obligé. Pour mettre de l'ordre dans le monde, il faut l'autorité. T'es obligé. Mais ça, c'est que pour démarrer. L'autorité, ça va être juste au début pour remettre de l'ordre dans le monde. Après, une fois que l'ordre reprend dans le monde, progressivement, Mashiach enlève son aspect autoritaire et reprend l'aspect enseignant. Et là, un enseignant est beaucoup moins autoritaire.
Tu restes un roi.
D'accord? Oui, tu peux rester un roi, mais en ayant moins l'aspect autoritaire.
Oui, d'accord.
Il faut passer par l'aspect autoritaire parce qu'on n'a pas le choix. Mais il va s'en débarrasser très rapidement. Parce qu'on ne veut pas garder l'aspect autoritaire. C'est une casquette qu'il ne veut pas avoir. Mais on n'a pas le choix. Il faut le faire. C'est pour ça qu'on fait de l'ordre. C'est-à-dire, si tu donnes juste des instructions et qui ne sont pas respectées, les choses n'avancent pas. Mashiach, au début, il va donner des instructions qui devront être respectées. Et après, avec le temps, il enlève cette casquette. Et il passe à la casquette de, maître, enseignant. Et donc, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'on aurait aimé avoir une relation avec lui de papa. C'est mon papa. Mais on te dit, mais d'un autre côté, si t'as pas accepté la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, tu le respectes pas. C'est comme ton père. C'est-à-dire, quand t'es devant lui, tu l'écoutes, et quand t'es pas devant lui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que tu veux. Ça marche pas, ça. Ouais. Enfin, on peut pas faire comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Il faut la notion de royauté. Et pour avoir la notion de royauté, il faut une acceptation de souveraineté. Et ça, la seule personne qui peut accepter la souveraineté, c'est moi. Personne d'autre. On peut pas m'imposer d'accepter une souveraineté, parce que si j'ai pas accepté, Si je suis récalcitrant, si je suis rebelle, personne pourra me forcer à ne pas être rebelle. Personne. Pas même Dieu. Même le roi peut pas me dire arrête d'être rebelle, il peut pas. Il peut me couper la tête s'il veut. Il peut pas m'empêcher d'être rebelle. Akadosh Baruch peut pas m'obliger à accepter sa souveraineté. Il peut me couper la tête s'il veut, Chas v'Shalom, mais il peut pas m'obliger, même Hachem peut pas m'obliger à accepter sa souveraineté. La seule personne qui peut accepter, c'est moi. Ça, c'est le vrai libre arbitre. Personne ne peut décider à ma place si j'accepte ou pas la souveraineté d'Hachem. Personne. Maintenant, tu dis, oui, mais de toutes les façons, c'est Hachem qui donne la vie, c'est Hachem qui te fait vivre. Oui, j'ai compris. Mais j'ai pas accepté. Si j'ai pas accepté, donc, il y a un endroit dans le monde où il y a quelqu'un qui n'a pas accepté la souveraineté d'Hachem. Et ça, personne pourra le faire, ça passe. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Maintenant, il dit la chose suivante. Avec ça, on va comprendre un chidouche extraordinaire. Il dit, Baruch atah Hashem. Comment on dit le tétragramme? Yud ke vav ke. Mais comment nous, on le lit? Ado, naï.
Oui, on dit pas non.
Vous avez remarqué que c'est pas écrit comme ça?
Oui, oui, non.
Et nous, on le dit ado, etc., naï. Bon, c'est écrit que lorsque machin viendra, on le lira comme il est écrit. Ouais. Comme il y a d'autres qui pensent que leur messie est venu, ouais. Il a dit, donc. Bon, voilà. Maintenant, nous, on connaît la réalité, on sait que c'est pas le cas. Maintenant, comment on dit ado, naï? Ça veut dire quoi? C'est quoi la traduction?
Maître.
Adon. Ad, c'est Monsieur. Quoi Adon?
Maître.
Adon.
Maître.
C'est le maître. C'est quoi le maître?
Mon maître.
C'est quoi le maître?
C'est mon maître.
Il va expliquer tout de suite. Regardez.
Supérieur.
Il va dire Veshem amore almidat malchuto idbarer. Ushem adnout ki ou adon kol haaretz. Et le nom qui indique l'attribut de la royauté divine est le nom adnout, seigneur, pour dire que Dieu est le seigneur du monde entier. Donc attention, parce que là il y a un piège. Adon en hébreu, ça veut dire aussi monsieur. Mais là c'est pas monsieur. Adon en hébreu, ça veut dire aussi maître, le maître d'un esclave. Mais là c'est pas le pshat. Là c'est seigneur. C'est quoi un seigneur? Un seigneur, c'est un roi. Ouais. Tu dis Baruch ata ado. D'accord? C'est comme si tu disais mon seigneur. Bon, sans faire de.
Oui, bien sûr.
C'est ça? Quand tu dis Baruch ata, béni sois-tu, Adonai, tu dis béni sois-tu, mon seigneur, à moi. C'est-à-dire que je t'accepte en tant que roi. C'est ça? Tout de suite, t'as démarré, t'as annoncé la couleur. T'as dit c'est mon seigneur, je l'ai accepté. Tant que t'as pas dit mon seigneur, ça marche pas.
Pourquoi il ne dit pas ça
on dit que jusqu'à. Si je ne me trompe pas, le Midrash dit comme ça, il dit que le premier qui a dit ça à Kadosh Baruch Hu, c'est Avraham Avinu. Jusqu'à Avraham Avinu, personne n'a dit ce mot. Personne n'a dit à Dieu mon Seigneur. Personne n'a dit mon Seigneur. Alors tout le monde dit bon, Hachem c'est le Dieu du ciel, etc. Mais personne n'a dit, était capable d'être, de vivre dans la terre et de dire mon Seigneur. C'est-à-dire Hachem est mon Dieu à moi ici-bas sur terre. Personne. Avraham, c'est le premier. Qui était dans la vie de tous les jours, qui était dans la cité et qui a accepté la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Hachem dit, je te suis reconnaissable à David Amitternam, pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Parce que tu as accepté ma souveraineté. Tu n'es pas né dedans. Tu n'es pas Adam Arishon qui est né dedans. Tu es né dans une famille qui était idolâtre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'obligeait à m'accepter. Personne ne t'a obligé à m'accepter. Tu aurais pu grandir un bon idolâtre et personne t'aurait embêté. Tu aurais fait des affaires comme ton père et tu aurais vendu des idoles. Mais personne ne t'aurait dérangé. On peut pas t'en vouloir. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas que t'es né dans une famille où il y avait la Torah et que t'as rejeté. Oh, il y avait rien. T'avais le choix. Tu pouvais pas. T'as accepté de plein gré. T'as accepté la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu, Adonai. C'est ça. Qui dit ici? Venimtsa. Donc il se trouve. Qui midazo veshemze en ameavim ou mekaimin aolam. Donc il en résulte que si on a bien compris ce qu'on vient de dire, que cet attribut de royauté divine, et le nom de Adonai qu'on vient de dire. Écoutez bien, c'est très fort ce qu'il va dire ici. Hen ameavin umekaimin haolam. Ce sont ces attributs qui créent et qui font exister le monde. Liyot olam kemot sheu arshav. D'être le monde tel qu'il est maintenant, tel qu'on le voit. Yesh gamur, une entité complètement indépendante. Vedavar nifra bifnatsmo, une entité séparée. Veeno batel mitzvot mamash. Une entité qui n'est pas effacée dans l'existence. C'est-à-dire que si on a un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, un monde dans lequel tu ne vois pas Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement pour préserver cette notion de adnout, de royauté. Que pour que la notion de royauté d'Akadosh Baruch Hu existe, il faut qu'il y ait une pseudo-indépendance et qu'on accepte la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout, c'est que pour ça. C'est-à-dire si le monde d'aujourd'hui a l'air de ce qu'il a l'air, normalement, comme c'est un monde dans lequel Dieu gère tout, en vérité, on aurait dû voir Hachem partout. Comment tu peux expliquer qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu? Dis-moi, je ne sais pas ce que c'est Dieu. Comment tu peux expliquer que nous-mêmes, il y a des moments dans notre journée ou dans notre vie où on n'accepte pas Dieu? On le met dehors.
On y pense fragilement, tu vois.
Bien sûr, tu le mets dehors. Mais bien sûr. Et tu fais une avéra. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, toi tu m'as dit oui, toi tu m'as dit non, moi j'ai dit oui, tu attends, je fais ce que j'ai à faire, et après je te reprends. Et je te dirai pardon après. C'est ça? C'est quoi alors? Je le présente un petit peu crûment, mais c'est ce qui s'est passé.
Bien sûr, oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel j'ai mis Dieu en dehors de moi. J'ai pas accepté la souveraineté d'Hachem. C'est la vérité.
Oui,
si j'avais la souveraineté d'Hachem qui était constante,
la
j'aurais pas fait la vera.
C'est clair.
Pas une seconde de ma vie, je refais une avéra. J'ai la soumaté d'Hachem. C'est pas le cas. Ça veut dire que je n'ai pas accepté la soumaté d'Hachem. Maintenant, comment ça peut arriver ça? Parce que Hachem veut qu'on ait une indépendance. Et il continue. Page 91. Qui? Beistalkut midazo veshemze. Car s'il se retirerait cet attribut à ce nom, imaginez que maintenant, on dit voilà, on va dire Baruch Ata Elokeinu. Il n'y a pas le nom Adonai.
Mais qui?
Béni tu es qui? Enfin, voilà, béni sois-tu notre Dieu. Mais il n'y a pas le mot mon Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de royauté. Si on enlevait cette notion de royauté, cette notion de royauté qui implique une indépendance, Aya Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve, si Dieu enlevait cette notion de royauté, Aya Aolam Chosan Korobu Dvarashim Korobu Dvarach, immédiatement, le monde reviendrait à sa source dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas d'indépendance. Et s'il n'a pas d'indépendance, il cesse d'exister. Il est noyé dans sa source. Pourquoi il a une indépendance? Parce qu'on ne voit pas sa source. Pour créer la royauté. Ça veut dire que le nom d'Akadajro le plus présent sur Terre ici, c'est le mot Adné. C'est ce nom-là. Pour pas dire le nom.
Oui, Ado.
Si ce nom s'arrêtait une seule seconde, le monde cesserait d'exister puisqu'il serait annulé dans sa source. Il serait noyé dans sa masse. Il n'aura pas d'indépendance. Velo ayashem olam alafklal. Et on ne pourrait même pas l'appeler un monde. Parce que, comment tu dis un monde? C'est quoi un monde?
Olam.
Olam. Ah, c'est quoi un monde?
Un monde.
Qu'est-ce qui définit un monde? Qu'est-ce qui fait un monde?
Ben, c'est plusieurs choses à la fois. Quoi.
Deux secondes, non mais attendez. Quel est le minimum syndical pour faire un monde?
Non. Un homme, c'est un monde de terre.
Imaginez que dans la terre, il n'y avait pas d'homme. C'est pas un monde?
Ah. Oui, mais c'est un
monde. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un monde?
Existence.
Attends, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un monde? Il faut les êtres humains? Faux. Parce que quand Dieu a créé le monde, il n'y a pas d'être humain.
Bah, il faut de l'espace.
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des montagnes? Faux, il n'y a pas de montagnes. Il faut des arbres? Non, il n'y a pas d'arbres encore. Deux secondes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des astres? Il n'y a pas encore les astres. Qu'est-ce qu'il faut?
La terre.
La terre quoi? Qu'est-ce qu'il y avait sur la terre?
La présence divine déjà.
Qu'est-ce qu'il faut pour faire un monde? Quel est le minimum syndical que si tu n'as pas ça, tu n'as pas de monde?
Création.
Alors, deux choses.
L'espace, le temps.
Exactement. Il faut deux choses. Il faut du temps et de l'espace. Il faut une notion de temps.
Et après, tu rentres.
D'accord? Ça veut dire passé, présent, futur. Et il faut une notion d'espace.
Et après, tu rajoutes.
Espace, ça veut dire est, ouest, droite, gauche. Voilà. Si tu as ces deux notions, tu as un monde. Après, ce monde peut être chargé, il peut être vide, il peut être ce que tu veux, mais tu as un monde. Maintenant, qu'est-ce qui crée ces notions de temps et d'espace? Ces notions de temps et d'espace n'existent pas chez Akadosh Baruch Hu. Parce que, par définition, le temps veut dire que il y a le passé, le présent et le futur. Mais chez Hachem, tout est en même temps.
Il n'est pas limité.
Il n'y a pas de notion de passé. Parce que si tu dis le passé est dépassé. Et le futur n'est pas encore arrivé. Mais chez Hachem, il n'y a rien qui n'est pas arrivé ou qui ne peut pas arriver. Donc le passé, le présent et le futur n'existent pas chez Hachem. Maintenant, pareil pour l'espace. Dans l'espace, c'est limité. Ce qui est là n'est pas là. Et ce qui est là-bas n'est pas là. Et ce qui est en haut est en haut. Et ce qui est en bas et ce qui est en bas n'est pas en haut. Et ce qui est en haut n'est pas en bas. C'est pas la même chose. Donc c'est une limite. Le temps et l'espace sont des limites. Or Hachem n'est pas limité. Donc le Olam par définition est limité. Est limité dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce qui fait que le monde est limité dans le temps et dans l'espace? C'est encore une fois notre nom Adné. Si on n'avait pas ce nom Adné, on n'avait que le nom Hachem, que le nom Yud-Kivavke, le monde ne serait pas limité. Dieu serait omniprésent. On l'aurait senti omniprésent. Et si on aurait senti Dieu omniprésent, automatiquement il n'y a plus de notion de temps et d'espace. Et s'il n'y a pas de notion de temps et d'espace, il peut rien avoir. Le monde ne tient pas. T'as pas de création. Parce que par définition, une création, il faut un lieu où elle est créée. Il faut un temps où elle est créée. Il faut un temps où elle est créée, un temps où elle arrive, un temps où elle part. Si t'as pas ton espace, t'as rien du tout. C'est-à-dire que la base même, le fondement de notre monde, c'est le temps et l'espace. Et le fondement des limites de temps et l'espace, c'est Adné, le nom Adné, qui crée justement cette pseudo-indépendance de temps et d'espace, qui fait que dans le temps et dans l'espace, on va accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu.
Il est lui-même dans le temps et dans l'espace.
Mais bien sûr.
D'accord.
Mais Hachem, il transcende le temps et l'espace. Il dépasse le temps et l'espace. Mais il va se limiter.
Ça, donc il va se rétracter.
Pour créer.
Laisser la place aux autres.
Pour, pas laisser la place aux autres. Pour donner un sentiment d'indépendance. Parce qu'Hachem est toujours là en vérité. Pour nous donner un sentiment d'indépendance. Pour créer un temps et un espace. Il n'y a pas de temps et d'espace, il n'y a pas de monde. C'est la base même.
Ça, t'as un libre arbitre et comme ça, tu peux dire si tu l'acceptes ou pas.
Alors, une fois que c'est créé, le temps et l'espace,
oui.
Alors on n'a pas besoin du reste.
C'est quoi le reste?
le monde tel qu'il est.
Bien sûr, parce que ce temps et l'espace, il faut le charger, il faut le construire maintenant.
Oui.
Il faut créer un système qui a l'air indépendant, dans lequel on ne voit pas Hachem, et que les êtres humains, dans ce système qui est indépendant, et dans lequel ils auraient pu refuser la souveraineté d'un Dieu qui ne voit pas, dans ce système qui a l'air complètement indépendant, ils vont quand même accepter la souveraineté d'Hachem. Très compliqué ce système.
Donc on revient à la première question, il a besoin d'avoir des sujets pour qu'il puisse régner. Avoir un monde et sur lequel il puisse régner.
Exactement. Il a besoin d'avoir les sujets, c'est nous. Voilà. Donc il va créer des sujets pseudo-indépendants, et ces sujets doivent accepter sa souveraineté. C'est fou quand on réfléchit à ça. Ça veut dire que quand toi tu fais une petite avéra, tu es en train d'énerver Hachem, comme un sujet qui énerve le roi, qui est en train de cracher devant le roi.
Oui, mais si je traduis ça comme ça, je suppose que Hachem, c'est un être humain comme moi. Je crache sur lui, je l'énerve.
On a dit qu'il y a trois vecteurs de communication avec Hachem. Il y a le vecteur, le père et le fils. Il y a le vecteur, le maître et le serviteur. Et il y a le vecteur, le roi et le sujet. Aujourd'hui, on a développé le troisième vecteur. Les autres vecteurs marchent aussi. On n'a pas dit que ça ne marche pas. C'est des gens qui vont dire comme un bon père. Bon, c'est mon père. Ça veut dire que, enfin, je l'écoute, enfin, je l'écoute pas. Je l'aime beaucoup, d'accord. Vous savez, il y a cette notion d'amour et de crainte, mais ça reste limité. C'est-à-dire l'amour d'un enfant envers son père, quand les choses sont régies que par l'amour, bon, il y a des choses qu'on fait par amour, et des choses qu'on ne fait pas par amour. Je dis, bon, il y a des limites, l'amour a des limites. Pareil par la crainte. Le serviteur a la crainte de son maître, il y a des limites. Ça veut dire que peut-être que dans son fort intérieur, il ne supporte pas son maître. Et ça, le maître n'a aucune emprise sur ça. Le maître peut lui imposer au serviteur ce qu'il doit faire. Comme il peut pas lui imposer ce qu'il va ressentir, il peut rien faire ça. Personne peut imposer.
Mais enfin,
ça veut dire que ça reste limité tout ça. Alors que le roi, ça rentre dans tes tripes. C'est-à-dire que jusqu'au fond de toi, tu acceptes la souveraineté du roi. Ça, il y a que dans le roi qu'on trouve ça.
Mais son programme est difficile. Son programme est difficile parce que depuis le début de la création, il est pas arrivé.
Je parle pas de programme là. J'accepte de la notion d'accepter la souveraineté.
Ouais,
c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Hein. Ils posent la question, ils disent mais comment ça se fait que Rosh Hashanah est avant Kippour? Les gens comprennent pas. Normalement, Rosh Hashanah c'est le jour du jugement. Kippour c'est le jour du pardon. La logique aurait voulu que d'abord tu demandes pardon, après tu te fais juger. Comment nous on l'a fait à l'envers? D'abord on se fait juger. Zama, alors bon, comme on ne sait pas, on se dit, bon, peut-être qu'on a eu un mauvais jugement. Tu dis, attends, je vais demander pardon. Après, tu le fais à l'envers. D'abord, demande pardon, après, fais ta juger. C'est exactement, ça, on n'a pas compris. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, mais c'est surtout le jour du couronnement. C'est le jour où tu acceptes la souveraineté d'Hachem. Parce que si tu n'as pas accepté la souveraineté d'Hachem, tu perds ton temps. Tu vas demander pardon à qui? Tu as demandé pardon pour dire, je demandais pardon. Tu as demandé pardon à qui? Tu as accepté la souveraineté? Si tu as accepté la souveraineté, tout est là. Après, c'est les détails, le reste. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, comment j'ai fait, comment j'ai pas fait, c'est un détail. T'as accepté la souveraineté d'Hachem? T'as accepté cette notion? Si t'as accepté cette notion, t'as tout gagné. On va lire encore quelques lignes. Page 91. Le terme monde ne s'applique qu'à ce qui s'inscrit dans la dimension d'espace et de temps. Comme on a expliqué, hein, comme vous avez dit Michel. Uniquement. C'est-à-dire que ce qui définit un monde, ce n'est pas les êtres humains, ce n'est pas des montagnes, ce n'est pas des astres. Non. Ce qui définit un monde, c'est le temps et l'espace. C'est tout. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Taras. Le temps et l'espace.
Et l'espace est représenté par la Terre.
Maintenant, Prilat Makom.
Oui,
mais c'est quoi la Terre?
C'est là l'espace.
C'est l'espace. Oui.
C'est quoi la Terre? C'est quoi la Terre? C'est quoi?
C'est pas quelque chose de.
Je vais aller plus loin, monsieur Benita. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa et Hashamayim ve et Haaretz. Haaretz, c'est la Terre. Donc d'abord, avant de créer la Terre, il a créé le ciel. C'est quoi le ciel?
Ah, c'est ce vide.
C'est quoi le ciel?
Le ciel sans la Terre.
C'était que de l'eau. C'est à lui qu'il faut demander.
Moi, je vous demande à vous.
Pourquoi il a
que de l'eau?
Monsieur Benita, vous posez des questions. C'est quoi ça? C'est moi qui vous pose des questions. C'est quoi le ciel? C'est quoi le ciel? C'est quoi?
Shamaim.
Pourquoi avait-il?
Mais attendez, non, c'est quoi le ciel?
Sans limite, il n'y a pas de limite.
Mais c'est quoi? Il y a des astres, il n'y a pas des astres encore. Qu'est-ce qu'il y a?
De l'eau.
Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de terre, il n'y a rien encore.
Il y a les malachim, peut-être qu'ils vivaient dedans.
Non, Bereshit, c'est quoi Shamaim? C'est l'espace.
La matière.
L'espace. Il a créé l'espace.
Non, mais la terre aussi. La...
Monsieur Benita, qu'est-ce qu'il y avait avant que Dieu crée le monde? Il y avait quoi? C'était le vide?
Tohu vavohu.
Non, c'est une erreur. Parce que tohu vavohu, tout mélanger, c'est déjà une création. Ça, le vide est déjà une création.
Bien sûr, il y a rien.
Qu'est-ce qu'il y avait avant le... Qu'est-ce qu'il y avait avant que Dieu crée le monde? C'était vide?
Oui.
Mais non.
Matière.
Parce que le vide est déjà quelque chose. C'est de l'espace.
Ah oui. Alors c'est quoi alors?
C'est quoi alors?
Ah bah oui.
C'est quoi? On est incapable de le définir. Parce que notre cerveau est conçu pour tout définir avec une notion de temps et d'espace.
Donc c'est un espace sans temps et sans espace alors.
Mais non, je peux même pas dire le mot espace. Parce que si je dis le mot espace, je l'ai déjà confiné à quelque chose. Un espace, c'est confiné.
Donc c'est ça, c'est
ce que je veux
dire. Je suis incapable de te répondre à cette question. Parce que mon cerveau est conçu pour ne réfléchir, il est programmé, formaté pour ne réfléchir qu'avec une notion de temps et d'espace.
Il est limité.
Donc ce qui n'est pas limité dans la notion de temps et d'espace, je suis incapable de te dire. Je peux pas te répondre. Mon cerveau n'est pas conçu pour répondre à cette question. Il n'est pas programmé. Même dans mon imagination, je peux pas m'imaginer quelque chose qui n'est pas de l'espace. Quand j'imagine quelque chose qui n'est pas de l'espace, je m'imagine le vide. Mais le vide, c'est de l'espace.
Oui, mais pour qui c'est vide, c'est qu'il y a quelque chose.
C'est qu'il y a un espace, il y a une place, il y a une superficie que tu peux ou pas mesurer, mais il y a une superficie. Tu peux aller 5 km, 100 km, 1 million km, mais il y a une superficie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant? Je ne peux pas te répondre. Parce que Olam, c'est une notion. C'est quoi Olam? C'est quoi le monde? C'est le temps et l'espace. Donc, il explique. Prinat Makom, la dimension d'espace. Où Mizrach, ou Maharav, Tsafon, Daron, Mala, Mata.
Voilà.
Est, ouest, nord, sud, haut et bas. Les six points cardinaux. D'accord? C'est la base. Ça veut dire que voilà, c'est-à-dire ce qui est là est là, ce qui n'est pas là est pas là, c'est quatre points cardinaux.
Donc c'est pas quatre, on rajoute deux là.
Non, c'est oui. Quatre.
Parce qu'il y a le haut et le bas.
Quatre points cardinaux, le haut et le bas.
Non, il y a par rapport à Echad. Ça, tu peux.
Oui.
Non, il ne rentre même pas encore dans l'Echad ici. Il explique la notion d'espace. C'est quoi l'espace? L'espace, c'est les quatre directions, plus le haut et le bas.
Sauf que ce n'est pas délimité.
Si.
Ben, quand il dit à droite, à gauche, c'est l'espace.
Est,
il n'y a pas de frontière.
Oui, mais dimension,
c'est pas délimité.
Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de frontière que je ne peux pas aller à droite ou à gauche.
Oui, c'est ça. Mais enfin,
Monsieur Benita, quand vous prenez l'avion, vous montez en haut. D'accord. L'avion n'est pas à la droite, pas à la gauche. Maintenant, il peut tourner beaucoup à droite, à gauche. Ce n'est pas parce que je ne vois pas un mur que je ne peux pas aller à droite. Je vais à droite, je suis parti à droite. Dans l'espace, je me suis déplacé à droite. À droite, à gauche, en haut, en bas. Mais dans cette notion, c'est partout où je me déplace, je ne suis plus au même endroit où j'étais avant. Donc il y a une notion d'espace. C'est-à-dire que là, je suis là, et là, je suis là.
Pourquoi il y a quatre? Je comprends pas.
Pourquoi il y a?
L'espace, c'est trois dimensions. Pourquoi il y a quatre là? Avec les points cardinaux, c'est pas la même chose.
Si,
c'est vrai. Non, points cardinaux, c'est une chose. L'espace, c'est trois dimensions. Ouais,
t'as... Oui, les trois dimensions, ça fait six, quand en direction.
Oui, mais là, on... bah, alors, ok, mais
t'as quatre points cardinaux.
Je comprends. Bon, l'espace, bon, enfin, l'espace, c'est trois dimensions. Là, on parle des points cardinaux.
C'est trois fois deux.
D'accord, mais ce n'est pas des dimensions.
Non. Voilà.
Oui, il y a trois dimensions, c'est parce qu'il y a aussi la hauteur. Mais la hauteur, ça correspond à...
D'accord.
Maintenant.
Et la quatrième notion, c'est le temps.
Ah, le temps, tout de suite, voilà. Prinat Zman, maintenant, c'est quoi la dimension du temps? Avar, Ove, Veatid. Le passé, le présent et le futur. Maintenant, Veine, Kol Prinatelu, Enlem, Shechou, Bionet, Gjotalinot.
C'est une seule dimension.
Toutes ces dimensions de temps et d'espace qui sont composés, donc on a dit des six points cardinaux, enfin des quatre points, des six points et du passé du, et des trois formes de temps, passé, présent, futur, trois formes mais pas plus, d'accord,
un seul temps.
Ce sont des notions qui n'existent pas dans les sphirotes alionot, dans les attributs célestes, ça n'existe pas.
Il n'y a pas cette notion.
La notion d'espace
n'existe
pas.
C'est pour
nous
ça, pour les hommes.
La notion de temps n'existe pas. C'est une dimension unique là-bas, une dimension unique qui transcende tout ça, qui dépasse tout ça. Le seul endroit où on trouve cette notion de temps et d'espace, Ki'im, Bemidat, Malchuto, Ibarak, Levada, ce n'est que en se rapportant à l'attribut de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qui est le dernier attribut dans les sirotes, dernier. Malchut, c'est le dernier. C'est seulement dans l'attribut de Malchut, Shayach, Lomar, Shuibarak, Melech, Lemala, Denkes, Matan, Adachli, Vren, Dele, Titrin.
Donc il a atterri.
C'est seulement dans le dernier aspect que là on va dire que l'Akadosh Baruch Hu est roi du haut sans fin au bas sans limite.
Sans limite.
Mais parler comme ça, c'est déjà limité, Hachem. Parce que quand tu dis haut, bas, même si tu dis sans fin et sans limite, t'as déjà contracté Hachem. Ça veut dire que tu laisses entendre qu'il y a un haut et qu'il y a un bas, et que le haut n'est pas le bas, le bas n'est pas le haut, et que quand Hachem il est en haut, il n'est pas en bas, et quand il est en bas, il n'est pas en haut. Donc
mais ça, c'est pour nous.
Justement. Ça, c'est seulement la dernière sphira. Dans les sphirotes, il y a 10 sphirotes. Chesed Gvura Tiferet, il y a 10 sphirotes, et la dernière sphira, c'est Malchut. C'est quoi Malchut? C'est la notion de royauté qui implique que pour que Dieu soit notre roi, on doit être ses sujets. Et pour être ses sujets, Dieu va créer la notion de temps et d'espace. Malchut. Et ça, c'est tout le sens de Moïra. Baruch Ata Hashem, donc Adne, ça veut dire mon Seigneur. Elokeinu, notre force, Melech Haolam, le roi du monde. Tout est là. Tout ce que je viens de dire est dans la bracha. Tout le reste qu'on fait, c'est là, c'est ça qu'on parle, de quoi on parle alors. Cette notion d'accepter la souveraineté, que moi j'accepte la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Je raconte pas ce que les anges y font. Ça change rien ce que les anges y font. Les anges, de toute façon, sont acceptés. Je dis ce que moi j'ai accepté. Et je parle à Dieu direct. Je lui dis mon Dieu. Pourquoi tu dis mon Dieu quand tu vas voir le roi, tu dis mon roi? Pourquoi tu dis mon? Qui tu es pour dire mon? Parce que Hachem veut que tu l'acceptes. Et si tu l'as pas accepté, on n'a rien gagné. Il veut que tu l'acceptes. Donc je lui dis, Baruch Ata, toi, je te fais descendre, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon roi, notre Dieu, le roi du monde. Je t'accepte. Je te prends. C'est ça? Baruch Ata Hachem, l'okenu melecha olam.
Donc ça veut dire qu'en gros, quand on parle de l'eau qui vient très haut des sept cieux, il y a un étage, deux étages, trois étages, il peaufine.
Oui.
Jusqu'à arriver.
Arriver à un niveau dans lequel il va créer la dimension de temps et d'espace. Alors pareil, on va tourner la page, encore quelques lignes, on s'arrête là. Vechen du prinatzman, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor. Une phrase très connue. Hashem Melech, Dieu est roi. Hashem Malach, Dieu a régné.
Dieu régnera.
Et Dieu régnera. Pourquoi tu dis ça? Qui se raconte? Pourquoi tu dis Dieu, dis tout court, Dieu est le roi? Pourquoi tu dis Dieu est le roi, Dieu il a régné, Dieu il va régner? Qui se raconte?
Ça veut dire qu'il est immortel, quoi, c'est ça?
Oui, mais le simple fait, j'ai compris votre question, simple fait de dire Hachem exprime déjà l'intemporalité d'Hachem. Le fait qu'il transcende la notion de temps et d'espace. Donc, en disant le mot Hachem, j'ai pas besoin de dire passé, présent, futur. Hachem transcende la notion. Seulement, encore une fois, dire Hachem, que le mot Hachem, ça veut dire que Hachem tel qu'il est, tel qu'il transcende l'espace, bon, il est comme il est. Mais moi, est-ce que je le vis dans mon monde à moi? Est-ce que ici bas sur terre, je sens que Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, que je vois comment Hachem occupe le passé, le présent et le futur? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. J'accepte la souveraineté d'Hachem.
C'est ce qu'on a dit.
Et j'accepte la notion de seconde, que la souveraineté d'Hachem est omniprésente, elle est intemporelle, et qu'elle couvre le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Hachem d'hier et le Hachem de demain. Le Hachem d'hier, le Hachem d'aujourd'hui et le Hachem de demain, c'est le même, ça sera le même, et il ne pourra jamais changer. C'est important de préciser ça, pour dire que ça veut dire que dans le cadre de la nature, dans le cadre de la temporalité, dans le cadre des dimensions du temps et de l'espace, j'accepte la souveraineté d'Hachem. J'accepte le fait que la souveraineté d'Hachem dépasse et transcende ces notions. Très compliqué ça, mais c'est ce qu'on fait. Ça a l'air des mots très hauts ce que j'ai envie de dire, mais c'est ce qu'on fait. Quand tu fais une mitzvah, quand tu viens à un cours de Torah, quand voilà, tu vas faire un vide, etc. Tu es en train d'accepter la souveraineté d'Hachem. Alors que rien ne t'y est obligé. T'as pas eu quelqu'un qui vient avec un pistolet te dire fais l'amida ou je te bute? Pourquoi t'es parti faire l'amida? Pourquoi t'es parti faire la prière? Tu pries à qui? Tu l'as vu, il t'a demandé, il t'a parlé. Seulement encore une fois, j'accepte la souveraineté d'Hachem. C'est mon roi. Donc je lui parle. Je le vois pas, mais je l'accepte en tant que roi. Hachem Elokeinu Melech Haolam.
On a une preuve dans le commandement de Hachem.
Alors juste deux secondes.
Le soir. Je mets le matin, c'est pour la journée. Je mets la nuit, c'est pour toute la nuit. Pour dire que tout le temps.
Hein, tout le temps, on a cette. Ouais. Alors maintenant, on va terminer avec ça. D'accord. Juste cette notion. C'est pour ça que comment on écrit le nom de Dieu, Yudke Vavke, Yeho virgule Va, qui veut dire le passé, le présent et le futur en même temps. Mais comment on le dit? On le dit Ado, etc. Nai, mon Seigneur. Comment on explique qu'on le lit pas de la même façon qu'on l'écrit? Mais on comprend. Parce que en vérité, dans l'absolu, Hachem est intemporel. Yudke Vavke. Hachem il est comme ça. Mais dire qu'Hachem il est comme ça, alors que moi je le vis pas, ça sert à rien. On dit non. Toi, tu vas, avec tes yeux, tu vas le lire comme ça, Yud Kevavke. Mais la façon comment tu vas le lire et comment tu vas l'accepter, comment tu vas l'ingérer dans ta personne, tu vas dire Adonai. Hachem est mon Seigneur dans ma vie de tous les jours.
C'est dans le mot où il y a là.
Exactement. C'est là que tout se joue. Mais je ne l'écris pas comme ça. Pour dire que je l'ai accepté en tant que roi et je dis que c'est mon Seigneur, c'est mon roi, tout ce que tu veux, etc. Mais je sais qu'il ne s'écrit pas comme ça parce que je sais que dans l'absolu, en vérité, Hachem n'a pas besoin de moi pour l'accepter. Il a toujours été le roi ici. Passé, présent et futur. Mais, d'un autre côté, mon acceptation est importante. C'est un peu paradoxal. Mais ça, on va développer la semaine prochaine. Comment, d'un côté, Dieu est le roi et d'un autre côté, je dois l'accepter en tant que roi.
On le dit aussi dans le roi.
C'est pour ça que sur certains livres, c'est marqué.
Oui, bien sûr.
C'est marqué en bas.
Bien sûr. Avant la commission.
C'est marqué.
Non, c'est surtout, non, mais c'est surtout lorsqu'il y a la, ça se, deux fois le nom de Dieu.
En bas, c'est marqué. Non, c'est Hachem Elohim, ça n'a rien à voir. Ça rien à voir.
En tout cas, il se bat dur.
Sur certains livres.
Très dur là-bas.
Sfarad, c'est marqué.
On l'accepte.
Ah oui. Baruch Hachem, et en bas, c'est marqué Ado.